Et s'il a une quelconque démarche spirituelle, il se trouve même très profane. Il se dit, oh, je ne suis pas prêt pour toutes ces choses. Voilà que je m'enflamme pour l'une et puis je me refroidis pour m'enflammer pour une autre. Décidément, Kutumi aura bien affaire avec moi. Pour que ce conflit cesse à l'intérieur de toi-même et que tu saches l'interpréter et que tu saches le faire cesser, je te donne à comprendre que il est tout à fait normal, logique, que tu sentes de la passion et personne ne penserait à te le reprocher. C'est normal. Je vais te démontrer pourquoi c'est normal. Tu vas par là même te déculpabiliser, mais attention. Du fait que je te le dis, et du fait donc que tu vas comprendre, tu devras ensuite exécuter. Car si tu comprends et que tu n'exécutes pas, alors sors de la salle avant d'entendre ma parole. Parce que tu seras plus perdu que sauvé, je te le garantis. C'est très beau de venir écouter les guides parler. Mais sachez que ce n'est pas sans risque pour vous. Ce n'est pas sans risque du tout. Vous risquez énormément. Vous risquez quoi? Vous risquez que votre mauvaise foi vous entraîne dans l'inaction et vous rende donc véritablement coupable de ce que vous avez compris et que vous n'avez pas fait. Il vaut mieux être un ignorant. Ainsi, vous restez des innocents, quoi que vous fassiez. Mais si vous avez entendu et que vous avez compris, et que vous continuez de faire autrement, vous devenez des coupables. Vous devenez même des blasphémateurs. Vous devenez des assassins, mentalement, verbalement. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Donc, si vous comprenez quoi que ce soit, dépêchez-vous d'exécuter. Car si vous n'exécutez pas, il vous arrivera toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire que le point même où vous avez arrêté un instant votre compréhension, mais qu'ensuite vous négligez spirituellement, ce point-là va être comme porté à l'évidence. Exactement comme lorsqu'un magicien procède à son premier rituel et se rend visiblement occulte. Et les occultistes me comprennent. Dès qu'il a appelé, invoqué les esprits, il s'est rendu visible dans le monde astral. S'étant rendu visible dans le monde des esprits, il va lui falloir être très prudent, très fort, pour que jamais cette visibilité soit une faille et un moyen pour les esprits de l'envahir et de l'attaquer. La même chose existe avec vos propres obstacles, vos propres limites. Dès que vous comprenez quelque chose, votre manque ou votre limite, votre défaut, vous devient occultement visible en quelque sorte. Et si vous ne faites rien pour développer la vertu ou pour éloigner cette limite, le défaut vous envahit tout entier et vous ronge jusqu'à moisir votre vie tout entière. Et c'est comme cela que l'on voit des disciples ou des occultistes finir leur vie dans un caractère épouvantable, rongé par presque toutes les vilaines attitudes du caractère, parfois même tous les vices. Et pourtant cela avait si bien commencé. Comment cela se fait-il que ça se finisse si mal? C'est parce qu'entre-temps il y a eu un homme qui a rendu visiblement occulte tout son gardien du seuil, c'est-à-dire toutes ses ténèbres, toutes ses limites. Et ce gardien du seuil devenant visible, devenant connaissable, s'il n'est pas maîtrisé, il devient un monstre qui dévore l'homme qui a pu une fois le regarder. Mais je reviens à ce que je disais. Je dis donc aux disciples qu'il est tout à fait normal qu'ils sentent de la passion. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est un être appartenant à la moyenne de l'évolution, le capital d'amour qui caractérise l'âme n'est pas connu de l'individu. Ce n'est donc pas l'état naturel expérimenté constamment. C'est un état qui ne peut s'exprimer que par petits à-coups, lorsqu'il y a un objet qui favorise son extériorisation, qui attire cette flamme. Et c'est comme cela que vous-même, vous pouvez vous contempler pendant des semaines, pendant des mois, aller tristement au travail, regarder toujours la même télévision sans plus rire, regarder toujours les mêmes amis sans ne plus sentir qu'il se passe véritablement quelque chose, regarder toujours le même paysage, pourtant très beau, mais ça ne dit plus rien. Et vous voyez toutes ces choses se répéter jour après jour, insipides. Et pourtant, tout devient beau, tout devient clair et pétillant si ayant croisé le regard de quelqu'un qui a attiré votre flamme, vous sentez par là même cette flamme vous réchauffer. Rien de mieux pour égayer les murs de la maison que de se sentir amoureux, n'est-ce pas? Rien de mieux pour égayer le bus dans lequel on est transporté tous les matins. Rien de mieux pour l'égayer que de se sentir amoureux. Rien de mieux pour avoir l'impression que la lumière brille plus fort dans le bureau. Rien de mieux que de se sentir amoureux. Tout devient plus beau, plus lumineux. Tout devient largement supportable. On saute sur le trottoir, on se sent des ailes. Pourquoi? Parce qu'on se sent amoureux. Mais qu'est-ce que cela veut dire être amoureux? Qu'est-ce que cela veut dire? Posez-vous la question, n'attendez pas que je réponde tout le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? La plupart des gens vont dire être amoureux, c'est être épris de quelqu'un. Alors moi, je vous pose la question suivante. Comment cela se fait-il qu'un individu qui est assis dans un coin, que vous ne connaissez pratiquement pas, qui ne représente après tout qu'un tas de viande, d'os, comment cela se fait-il que ce quelqu'un est capable de faire naître en vous cette attraction amoureuse? Comment est-ce que ce corps, ce sourire, voire même ces vibrations pour ceux qui sont plus développés ou plus psychiques, comment cela se fait-il que ce réseau est capable de vous mettre dans un tel état? Réfléchissez à cela. Vous mettre dans un tel état. En fait, vous n'êtes amoureux de personne. Non. Et je ne vais pas le répéter pour vous faire rire une nouvelle fois, mais je vais le redire parce que cela est utile. Aucun tas de viande et aucun tas d'os n'est capable de rendre un autre tas d'os amoureux. Même si on met un petit peu de vibration et des auras au milieu. Qu'est-ce donc qui crée l'atmosphère? Qu'est-ce qui va créer cet état en vous? Puisqu'il y a création d'un état, un état d'amour. Ce qui crée cet état d'amour qui soudain peut exister en vous, c'est tout simplement que il vous semble avoir reçu suffisamment d'énergie, et une énergie qui vous ressemble, pour attiser l'amour qui est en vous. Et cette énergie, elle se transmet par le regard, par le sourire, par le toucher, ou par l'intellect, car il y en a qui s'aiment grâce à la tête, aux idées partagées. Si en fait, c'est donc le réveil d'une énergie qui est en vous, par l'énergie qui est en quelqu'un d'autre, il va de soi de comprendre qu'il s'agit là d'une initiation à l'amour. C'est exactement ce que fait le maître quand il veut vous donner l'initiation. Il se présente. Il donne une étincelle de son énergie qui est l'amour et qui réveille en vous l'amour. Donc, quand vous tombez amoureux, ne vous serrez pas le ventre en disant « Ça y est, j'ai encore échoué, voilà que je tombe dans les mirages, voilà que je me parjure, voilà que je renie le ciel et mon âme, et Koutoumi, qu'est-ce qu'il va dire de moi ?» Voyez cela au contraire comme un moment initiatique. Mais attention, il faut le prendre de façon initiatique jusqu'au bout. Car c'est bien beau de voir l'initiation au début et de ne voir que des oreillers à la fin. Eh oui. Donc, comment faire en sorte que l'instant initiatique soit présent du début à la fin? Tout simplement en y pensant. Ce n'est pas compliqué. La spiritualité n'est jamais compliquée. Tout ce qui fait que l'amour peut être à un moment donné dégénéré pour devenir quelque chose de pitoyablement humain dans une chambre d'hôtel ou ailleurs, c'est que le regard, qui était le regard de l'âme au début, au moment de l'étincelle, devient ensuite le regard de l'homme, puis le regard du corps. Ce qui fait que dans les premiers temps, les amoureux sont capables de se regarder pendant des heures et ne pensent jamais à se toucher. Mais c'est ce qui fait que quelques mois plus tard, ils ne se regardent plus dans les yeux, ils ne font que se toucher. Parce qu'entre-temps, le regard a changé d'objet. Il ne regarde plus ce moment magnifique où le feu envahit l'être, où le bonheur existe, où la joie existe, où le partage existe, où on a envie d'embrasser le monde entier, de courir en Afrique, créer des puits d'eau pour ceux qui ont soif, où l'on voudrait monter sur la lune pour lancer des œillets à toute la terre. Ce regard, petit à petit, semble se déplacer et ne plus se fixer que sur la bouche, les seins, le sexe, la voix, l'odeur, les paroles, la parole surtout. Ce qui fait que même après une belle nuit, si l'amant a le malheur de dire une mauvaise parole, voilà la fiancée qui est toute ébouriffée et se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour céder à cet imbécile ?» Me voilà encore bien attrapée. Il me dit que je n'ai pas de belles dents. Mais qu'est-ce qu'il en sait si mes dents sont belles ou pas? Est-ce qu'il a vu les siennes? Et souvent, pour des choses aussi simples, ce que l'on croyait être absolu une heure avant devient un cauchemar une heure après. Et ainsi, l'homme s'interroge sur la nature de l'amour. Et tout aigri, il conclut que l'amour n'existe pas. Alors il se dit, je ne tombe plus amoureux, c'est terminé. Je veux bien collaborer, faire un couple, d'accord, parce qu'il faut bien faire des enfants, et puis sinon je m'ennuierai tout seul. Puis après tout, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas raccommoder. Et puis il me faut quelqu'un sur qui crier, zut. Alors petit à petit, celui qui se voulait un célibataire endurci accepte finalement de se marier. Mais il se marie tellement mal. Il crée l'enfer pour lui, pour elle, pour les enfants, pour le monde entier, car ils sont des millions à travers le monde à se marier de cette façon-là. Sache garder initiatique l'éveil de cette flamme qu'est l'amour en toi. Même si ton initiateur est simplement un autre être humain. Et c'est très beau que cela soit ainsi. C'est très beau. Les maîtres ne veulent pas s'accaparer toute la gloire de l'initiation. Vous savez, nous, moins on initie et mieux on se porte. Pourquoi? Mais parce qu'on garde notre liberté. Plus personne à surveiller, plus personne à redresser, plus personne à comptabiliser. Fini les disciples qui nous secouent la robe pour nous dire « Je voudrais ceci, je souhaite cela, quand je vais mourir, viens me chercher. » On aurait une paix fantastique. On pourrait voir les chevaux volants partir de Shambhala pour porter le courrier plus loin, dans le soleil. On pourrait regarder les colombes s'envoler, se raconter des blagues avec Koutoumi, avec Moriya. en buvant de la grenadine. Ça vous semble surréaliste, complètement dément. Et pourquoi pas, après tout, le bonheur, c'est aussi cela. Vous en convenez vous-même sur la terre. Lorsque vous avez beaucoup travaillé, vous vous dites bien, oh, tout cet argent, après tout, ça ne sert à rien. Rien ne vaut une bonne pêche au bord de l'eau. Pour nous aussi, le bonheur, c'est cette même tranquillité. Et seulement, je peux vous assurer que dès que l'on regarde l'humanité, la tranquillité, c'est terminé. C'est le travail qui commence. Bon, nous avons assez souri pour l'instant, c'est nécessaire dans le discours. Et reprenons maintenant la vie de ce pauvre disciple qui a vu la passion naître en lui et se refroidir. Que dois-tu faire quand cela t'arrive ? Quand cela t'arrive, tu dois penser que l'autre n'est pas l'objet de ton amour. Comme le disciple doit absolument penser que le maître n'est pas l'objet de sa quête. Car de la même manière que lorsque l'amoureux pense que l'autre est l'objet de l'amour, le disciple peut penser que l'objet est le maître. De la même manière qu'il y a l'erreur dans les deux royaumes, et bien aussi de la même manière, il y aura un enlèvement de l'objet, une disparition. On va faire disparaître l'objet. Ce qui fait que la fiancée va disparaître et le maître va disparaître. Et l'amoureux se trouve dans la douleur, et le disciple se trouve dans la douleur, une douleur encore plus grande, car il s'agit de la douleur de l'âme. Alors il crie, il voudrait s'anéantir dans une mort définitive et absolue. Il voudrait se jeter dans l'abysse de l'antimatière pour être désintégré. Il souffre en fait du même chagrin d'amour que l'amoureux de la terre. Et il en souffre pourquoi ? Parce que comme l'amoureux de la terre, il s'est trompé d'objet. Il a aimé le maître puissamment, fortement. Il s'y est attaché. Il a projeté tout sur lui, de la même manière a fait l'amoureux. Mais l'objet de la quête, l'objet de l'amour, ce n'est ni la fiancée, ni le maître. La fiancée comme le maître sont des instruments révélateurs de l'objet que tu portes en toi-même, de l'amour qui est en toi-même. Donc, quand tu es amoureux, ne crois pas être amoureux d'une telle. Ou si tu es une fille, ne crois pas être amoureuse d'un tel. D'abord, sache que tu es amoureux de l'amour. De ce fait, l'autre n'a pas d'importance. Mais tu ne dois pas t'en arrêter là, car tu serais injuste. Tu dois te dire, certes, l'autre n'a pas d'importance, car il est simplement l'énergie qui révèle l'amour qui est en moi. Il fait naître le feu qui est en moi. Ce feu ne peut pas exister s'il n'est pas en moi. Et là où tout devient puissamment spirituel, c'est que cela ne t'empêche pas pour autant de pouvoir aimer l'autre. Et c'est à ce moment-là que tu peux lui donner un véritable amour. Et de quel amour s'agira-t-il ? Il s'agira d'un amour qui est toute compréhension, tout pardon, car même s'il se lève 10 fois le matin en te disant « Tu es mal coiffé, tu as du poil aux jambes, va te brosser les dents, tu parles mal, va te parfumer, tu ne sens pas bon », même s'il vous répète cela 10 fois par jour, cela n'entamera jamais l'amour que vous avez pour lui. Tout simplement parce que l'amour est en vous et plus dans le miroir. Car tant que l'amour se trouve dans le miroir, donc tant que vous projetez sur l'autre, dès qu'il commence à y avoir un peu de buée sur ce miroir, la buée de la colère, la buée de l'incompréhension, de la différence du caractère, la buée des petites mauvaises humeurs qui fait que l'on dit après tout n'importe quoi et qu'on le regrette, mais que l'on ne dit pas que l'on regrette. Eh bien, cette buée finit par obscurcir le miroir. Et soudainement, un jour, on s'aperçoit que l'on ne voit plus rien dans le miroir et c'est là que l'on croit que l'amour a disparu. C'est là que l'on divorce. Ou c'est là qu'on ne s'occupe plus du tout du conjoint et que l'on va faire sa vie ailleurs. Et que tout recommence pour une fois encore mourir, se casser, s'embuer. Il ne faut plus regarder dans les miroirs. Ce sont des instruments trompeurs. La buée peut les envahir. Le teint peut se piquer. Ils peuvent même être cassés. La mort, ça existe. Et si votre amour n'avait pris l'habitude d'exister que par reflet dans le miroir, alors quand le miroir se brise, plus rien n'existe. Et si plus rien n'existe, cela veut dire aussi que plus rien n'existe en vous. Et c'est pour cela que vous sentez soudainement que l'amour vous quitte. C'est pour cela que le veuf, soudainement, sent qu'il se trouve dans la douleur et le malheur, son objet a disparu. Sa femme s'est éteinte, le miroir est brisé. Alors il se dit « je ne serai plus jamais heureux ». C'est fini, elle est partie. Pour moi, les larmes commencent et cela durera jusqu'à la fin de ma vie. Erreur. Je ne te dis pas que pour être un initié, tu dois te transformer en un pilier inébranlable de froideur. Ce n'est pas cela, l'amour. L'amour, c'est une existence. C'est quelque chose qui existe. C'est une existence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cela existe en vous comme une existence. Donc, cela est à tout instant. Et cela n'a pas besoin de prétexte pour exister, puisque c'est une existence. Par contre, pour arriver à cette existence continue, de la même manière que vous subissez des vies et des morts, des naissances et des morts, cette existence qui est en vous et qui est l'amour va aussi subir des naissances et des morts, tant que vous-même vous subissez des naissances et des morts. Et c'est comme cela que l'amour paraît et disparaît, semble venir et repartir. Il naît et il meurt, comme vous. Vous naissez et vous mourrez. Vous vous manifestez et vous retournez au non-manifesté. L'amour fait de même. Il se manifeste, il devient un état, il vous fait sentir sa flamme. Mais comme l'autel n'est pas encore prêt, pas encore dressé, pas encore droit, alors il retourne au non manifesté, il retourne dans l'âme. Et l'homme qui est le théâtre sur lequel se passe ce phénomène se sent d'un seul coup plein et d'un seul coup vide, comme lorsqu'il y a la prestation puis le tombé du rideau. Le tombé du rideau est toujours douloureux. Un vrai artiste ne veut jamais que le rideau tombe. Il veut toujours jouer. Et c'est comme cela que la femme veut sans cesse être amoureuse. Il faut sans cesse que son mari la séduise. Pique-moi, pique-moi. Fais-moi vibrer. Je t'aime, mais je t'aime encore plus quand tu me séduis. J'aime bien quand ça fait des bulles partout. C'est ce que disent les femmes. Parce que la femme ne veut jamais que le rideau tombe. Le mari, lui, dit la même chose, mais plutôt pour la scène du monde. Il ne veut jamais que sa puissance tombe. Il veut toujours être sur la scène. Cette scène, c'est l'endroit le plus dramatique. Et c'est pour cela que la vie est un drame. C'est l'endroit le plus dramatique, pourquoi ? Parce qu'il y a un instant où l'on rentre et un instant où l'on doit sortir. Mais si l'acteur est assez fou pour croire à son personnage, il n'arrive plus à sortir et il s'accroche à son personnage. Il s'accroche à la scène, il s'accroche au rideau, il s'accroche à son texte. Il supplie le public de ne pas partir, il supplie le public de le croire, de mettre les mêmes habits que lui pour jouer la scène, la même que lui. Et il s'étonne que le public soit habillé tout différemment, alors que lui représente Hamlet. Et il voudrait que tout le monde quitte les pantalons et les cravates d'aujourd'hui pour monter sur la scène et jouer avec lui. Et dans le public, il y a toujours des esprits suffisamment faibles pour accepter de se travestir, pour accepter de jouer un personnage de la scène, car les acteurs sont très habiles. Leur folie est tellement collective qu'ils arrivent à contaminer les autres. Et ils n'ont pas peur de s'approcher des sièges pour venir eux-mêmes prendre les hommes qui sont dans le public, pour les habiller et leur dire « Voilà ton texte, maintenant joue, joue et donne-moi la réplique, donne-moi cette occasion d'être le roi, d'être la reine, d'être le dominant. Donne-moi l'occasion de me faire ce plaisir immense, car c'est moi qui ai le rôle qui tient l'épée. Toi, bien sûr, tu as le rôle de celui qui va se trouver au bout de l'épée et qui sera transpercé. Mais joue bien ton rôle, si tu savais comme ce rôle est important. Tout mon rôle dépend de ton rôle. Si tu le joues, alors je peux exister. Alors, crois à ton existence. Laisse-toi habiller, laisse-toi grimer, laisse-toi maquiller et joue avec moi. » Et dès que le pauvre homme qui est monté sur la scène a accepté d'enfiler le vêtement, la perruque et de se laisser maquiller, il est perdu. Il va se trouver immanquablement au bout de l'épée. Immanquablement, il va être transpercé. Et il voudra fuir à ce moment-là la scène, il cherchera, il va se débattre, mais trop tard. Il va mourir puisqu'il est transpercé. Et il est transpercé pourquoi ? Par quelle magie ? Il n'était qu'un homme du public venu écouter là. Il n'est pas celui qui doit mourir. Comment se fait-il que sa mort devienne une réalité ? Sa mort devient effective simplement parce que, en enfilant l'habit, en enfilant la perruque, en mettant le maquillage, il a dit « Je suis le valet, je vais jouer le valet. » Et au moment où il a prononcé les premiers mots, il s'est complètement identifié au valet. Les valets ont toujours une vie de courte durée. Et très vite, il s'est donc retrouvé transpercé. Toutes les consciences, tous les hommes, joue ce jeu. Tous les hommes, à un moment donné, sont attirés par la scène. Acceptent d'enfiler le vêtement. Apprennent leur texte. Et même certains l'apprennent très consciencieusement. Et l'on voit ainsi, dans le nom manifesté, des âmes se préparer à leur future incarnation et répéter, répéter tout ce qui va leur arriver. Je devrais faire ceci, je devrais faire cela, je devrais être une bonne mère, je devrais être un bon instituteur, je devrais être un bon commerçant, je devrais être un bon acteur. Je vais devoir faire ceci, devoir faire cela. Et l'âme fait le compte de tout ce qu'elle ne doit pas oublier. Ce qui fait qu'au moment où il y a l'incarnation, il y a la chute. Et c'est pour ça que l'enfant crie. Il comprend à ce moment-là l'erreur qui a été commise. Et il se débat comme celui qui veut sortir de la scène, qui sent que l'épée l'a transpercée. Il se débat, il cherche à sortir de la scène, à reprendre son siège de spectateur. Trop tard. Le piège s'est refermé. La matière se referme sur lui. Le corps l'a complètement encerclé. Il ne lui reste plus qu'à apprendre à marcher, mais à marcher droit. Que tirer comme conclusion de ce que je viens de dire? Vous devez tirer la conclusion que tant que le monde exerce une fascination, vous êtes prisonnier de la scène. Sitôt que vous comprenez que le rôle que vous jouez n'est pas quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est votre vie, votre destinée, que ce n'est qu'un rôle à jouer sur la terre. À partir de ce moment-là, si vous êtes un valet et que le valet doit être transpercé par l'épée, puisque tel est le rôle, bien sûr, l'épée va vous transpercer. Simplement, vous n'allez pas mourir. Vous allez dans la coulisse enlever le vêtement et vous pourrez continuer à regarder le spectacle. Il n'y aura pas de funérailles. Vous regarderez le spectacle et vous pourrez vous asseoir à votre siège de spectateur, comme venir hanter les acteurs qui, eux, sont restés sur la scène, pour leur dire « Mais attention, tu te prends un peu trop pour Hamlet. Attention, tu te prends un peu trop pour Don Juan. Attention, tu t'identifies trop. Joue le jeu, d'accord. Mais n'y crois pas. » Il y a une grande différence entre mourir parce que l'on quitte son corps, puisqu'il le faut, et mourir parce que l'on ne sait pas continuer à vivre. Il y a une grande différence entre ces deux morts-là. Celui qui meurt parce qu'il quitte son corps, parce qu'il faut laisser le corps à la terre, il faut le rendre à la nature, celui-là ne meurt pas. Il sort, c'est tout. Et de l'autre côté, il est tout aussi vivant que s'il disposait de son corps, et même encore plus vivant. Mais il y a l'autre. L'autre qui est tombé dans le piège du théâtre, le piège du drame. L'autre qui a cru. Et celui-là, lorsqu'il meurt, il meurt aussi avec toute sa conscience. Il connaît la véritable mort. Et celui-là a peur de mourir, parce qu'il sait qu'il va mourir, et que même si les curés sont là pour lui dire « mais non, l'âme est éternelle », rien n'arrive à lui faire croire cela, et il a raison. Je soutiens que tous ceux qui se disent athées, ou même qui ont des convictions spirituelles, mais qui ont peur de la mort, je soutiens que ces gens-là ont raison, car la mort existe. Elle existe pour vous tous. Elle vous attend. Elle est là. Elle est déjà là. Elle est en vous, vous la transportez. Elle fait partie de vous. Vous la respirez et vous l'expirez constamment. Elle est votre moisissure et votre moiteur. C'est ce qui fait que des gens ne vous aiment pas. Et c'est ce qui fait que vous n'aimez pas d'autres gens. Parce que vous sentez le coefficient de mort qu'il transporte. Et qu'est-ce que ce coefficient de mort? Ce sont toutes les énergies que vous sentez qui ne sont pas la vie, qui sont donc encore ténèbres, encore repliées sur elles-mêmes. Et en sentant ce coefficient de mort, vous vous dites « je n'aime pas un tel, son caractère ne me convient pas, ou je n'aime pas le regard ». Ce n'est pas le regard que tu n'aimes pas, ce n'est pas l'homme que tu n'aimes pas. C'est la mort qu'il transporte et qui te fait froid dans le dos. Toute l'ignorance qu'il transporte, tout l'égoïsme qu'il transporte, toute sa cupidité, tout son manque de loyauté, etc. C'est tout cela, la mort. Vous êtes la mort. vous êtes déjà mort. Qu'est-ce que je fais moi ici? Ce ne sont pas des cadavres qui vont pouvoir me répondre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a tant de silence. Si vous étiez vivant, vous me parleriez, car vous sauriez ce que je suis. Et vous ne seriez pas assis sur des chaises en train de m'écouter et de faire deux et deux. Ce qu'il a dit, cela peut-être fait quatre. Tiens, ça ressemble à ce que j'ai lu là. Tiens, ça correspond un peu à ce que j'ai expérimenté. Non, non, c'est pas du tout ce qu'a dit l'autre. Il faudra que je réfléchisse quelque temps. Oh, peut-être il n'a pas si tort que ça, ou peut-être pas si raison que cela. Et puis en voilà encore un parmi tant d'autres. Des guides, il y en a tellement. Aujourd'hui, on ne les compte plus. Vous ne seriez pas là, en train d'agir comme cela, en train d'écouter même. Je n'aurais rien à dire et vous n'auriez rien à écouter. On serait en train de danser. On serait en train de fêter nos présences réciproques. Et c'est ce que je voudrais qu'il se passe au cours des contacts, comme vous dites. Je voudrais que nous apprenions à fêter nos présences réciproques. Je veux pouvoir fêter vos présences et je veux sentir votre cœur fêter ma présence. Non pas parce que c'est moi et que je suis le guide. J'en ai rien à faire d'être plus beau que vous, plus grand que vous, plus intelligent que vous, plus lumineux que vous. Je ne me soucie pas de ces choses. Il n'y a que vous pour penser de la sorte. Je voudrais que vous puissiez fêter ma présence simplement parce que nous sommes ensemble. Au lieu de réfléchir à ce que je dis, au lieu de l'interpréter, au lieu de penser à peser, sous-peser, au lieu de réfléchir aussi à la question que vous allez m'envoyer par l'esprit, parce que vous avez remarqué que je peux répondre par télépathie. Voyons, je vais faire le compte de tout ce que je ne sais pas, de tout ce qui m'interroge. Je vais me concentrer, je vais lui envoyer, et il va me répondre, c'est certain. Si vous aimez le tennis, moi je ne le pratique guère, même s'il s'agit d'un tennis mental. Il est vrai que je réponds à vos questions, même celles qui ne sont que pensées, mais sachez que cela n'est vraiment pas mon plaisir. Je voudrais au contraire que vous ne pensiez plus. C'est comme cela que j'arriverai à vous montrer ce qui existe. Ce n'est pas en vous parlant que je vais vous montrer ce qui existe, alors ne pensez plus. D'ailleurs, je parlerai de moins en moins. Vous le remarquerez. Je dirai de moins en moins, même si des notes apparaissent. Mais ce ne sera que pour tuer le mental, vous dégoûter de penser, vous dégoûter d'avoir construit une question pour vous habituer au silence. C'est dans ce silence qu'il peut y avoir la célébration des présences. Et vous-même, quand vous accueillez des amis chez vous, faites de même. Pourquoi perdre tout ce temps à jacasser? Pourquoi perdre tout ce temps à parler sur l'un, sur l'autre, sur l'inflation, le chômage, les derniers modèles de voitures sortis, la construction des maisons, la valeur des billets de banque, la grandeur des ourlets pour les robes de cet été? Pourquoi parler de toutes ces choses? Elles arriveront, toutes ces choses. Alors laissez-les arriver et n'en parlez pas. Faites-les, mais n'en parlez pas. Et quand vous êtes ensemble, partagez le silence. Partagez la présence. Parce que c'est dans la présence qu'il y a la révélation. Si vous ne faites jamais un instant de silence, comment est-ce que votre propre présence va pouvoir se révéler à vous-même? Silence, je te dis. Silence ou je te prends le marteau et je te fends la tête. Comment est-ce que je pourrais m'y prendre? De façon très simple. Il y a des tas de marteaux dans la vie. Il y a le marteau du travail. Et par exemple, si on veut te marteler avec le marteau du travail, on va t'empêcher d'accéder au poste que tu convoites. Il y a le marteau de l'amour. C'est très facile d'utiliser ce marteau-là. Tout le monde entend de marteau, justement. Il suffit que l'on te retire chaque fois l'être que tu aimes. Si possible, il faut qu'en partant, cet être se moque de toi. C'est encore pire comme cela. tout est marteau dans la vie. Pourquoi? Parce que l'homme est une pierre et que la pierre, ça se taille. La pierre doit devenir parfaite. Tout est marteau dans la vie. Alors ne vous étonnez pas à ce que les coups de marteau pleuvent. Ne soyez pas là en train de penser au nouveau monde comme si dans le futur monde tout ira bien. Au contraire, plus le nouveau monde arrive, plus le marteau grandit. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un mystère à cela? Il y a le mystère de l'alchimie. Si le marteau grandit, c'est que son coup doit devenir de plus en plus fort pour enlever les derniers morceaux qui sont les plus résistants, les derniers morceaux de calcaire, de granit. Que sont ces derniers morceaux résistants qui empêchent que la pierre soit absolument lisse? Les derniers morceaux les plus résistants sont les habitudes de l'identification. Un disciple arrive assez bien à être disciple. Je dirais même que les premiers degrés des initiés arrivent assez bien même à être des initiés. Ils savent assez bien ne pas trop juger, et quand ils jugent, ils se trouvent bien des raisons, donc leur conscience est tranquille. Ils savent assez bien agir pour le bien des autres, ils savent assez bien être responsables. Tout cela, ça va. Mais c'est encore un vêtement. C'est un meilleur vêtement que le précédent, mais ce n'est qu'un vêtement. Le dernier écueil qu'il faut enlever et qui nécessite donc ce gros marteau, c'est l'écueil le plus dur de l'habitude de l'identification. Car si un disciple arrive facilement à être gentil, à être secourable, il va cependant commettre l'erreur de s'identifier à la gentillesse, de s'identifier au secours qu'il apporte et finalement de s'identifier tout simplement à lui-même en tant que disciple. Et il va dire « je » lui aussi. Un « je » qui sera peut-être un peu plus propre, mais qui est un « je » quand même et qui est donc le même piège. Et ce piège-là est toujours le plus dur à rompre parce qu'il a fonctionné pendant tellement de temps, tellement d'incarnations. Il est comme rivé dans la substance mentale inférieure, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Tous les conditionnements s'installent dans le mental inférieur. Il n'y a rien dans le mental supérieur. Il n'y a que le nom que vous vous connaissez sous l'appellation de nom d'éternité, par exemple. Quel est mon nom d'éternité? Comment est-ce que je m'appelle en tant qu'âme dans l'univers? Quel est ce nom-là, m'a-t-on demandé? Et je n'ai rien dit. Pourquoi je n'ai rien dit? Tout simplement parce que ce nom-là n'est pas quelque chose qui s'écoute ou qui se conçoit. Il se regarde et on plonge dedans. Connaître son nom d'éternité, c'est en fait se connaître soi-même. Donc on ne pourra jamais dire quel est votre nom. Parce que, autant que je pourrais employer du temps à vous décrire à vous-même, vous ne comprendrez pas qui vous êtes, donc vous n'entendrez pas votre nom. Tout le temps donc que je vais employer sera pour casser le mental, casser l'archaïsme. Je veux que votre mental soit épuisé. Et d'ailleurs, si j'étais suffisamment de mauvais goût, jusqu'à ce que je décide de vous laisser partir, je ne ferai que répéter « nanana 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 ». Et vous verrez qu'au bout, ne serait-ce que d'un quart d'heure, vous allez être complètement épuisé. Et je ne veux pas que vous soyez venu pour des « nanana nanana », simplement pour cela. Il y a d'autres moyens pour tuer le mental. Je peux tuer le mental, par exemple, en vous parlant, de choses que vous ne pouvez pas forcément comprendre de temps en temps, juste pour vous faire décoller un petit peu plus haut et vous couper les ailes au moment où il vous semblait que vous pouviez voler. Vous allez penser que c'était quelque chose d'un peu cruel, mais c'est comme cela que l'on tue le mental. C'est comme cela que l'on peut réveiller la présence, coupant les ailes, que l'on a fait mine d'ouvrir un temps par la compréhension. Alors un moment, je vous apporte vers la compréhension, et le moment d'après, je parle de quelque chose qui dépasse le compréhensible, même si l'on utilise la substance abstraite, et vos ailes retombent lourdement. Alors dans ce va-et-vient incessant, un jour, vous finirez par baisser les bras. Et c'est à ce moment-là que je serai là, moi ou les autres, peu importe. Nous sommes tous de la même essence et de la même lumière. C'est à ce moment-là que je serai là. Donc il suffit que vous décidiez de combien de temps vous allez décider pour perpétuer ces allées et ces retours. Combien de temps vous allez continuer à monter et à descendre. Monter pour avoir l'impression de toucher le ciel et redescendre en ayant l'impression de tomber en enfer. Sembler être un ange un jour, sembler connaître Dieu un jour et le lendemain se réveiller de fort méchant.